Nous nous demandions également si les volutes de fumée au sommet de la montagne qu'avait cru discerner ce pauvre Lake, tout comme les curieuses brumes que nous avions nous-mêmes aperçues autour des sommets couronnés de remparts, pouvaient avoir pour origine les vapeurs issues de cette région inexplorée au cœur de la Terre. Pénétrant dans le tunnel, nous avons constaté qu'en son début, il mesurait environ 5 mètres de large et de haut. Sol, plafond et mur étaient constitués de la même maçonnerie mégalithique. Les parois étaient chichement décorées par des cartouches remplies de dessins dans un style décadent tardif, et tant la construction que les gravures étaient remarquablement bien préservées. Le sol se révélait relativement dégagé, à part quelques gravats portant la trace du passage des pingouins et de celui des autres. Plus nous avancions, plus il faisait chaud, si bien que nous avons été obligés de déboutonner nos lourds vêtements. Nous nous sommes demandé s'il y avait des phénomènes ignés dans les profondeurs et si les eaux de cette mer sans soleil étaient chaudes. Après une courte distance, la maçonnerie faisait place à de la roche brute, bien que le tunnel conservât les mêmes proportions et gardât le même aspect régulier. Parfois la pente se faisait si raide qu'il avait fallu tailler des marches dans le sol. Plusieurs fois nous avons remarqué des ouvertures de petites galeries latérales qui ne figuraient pas sur nos croquis, mais aucune d'entre elles ne semblait à même de compliquer notre retour, et chacune pouvait fournir une cachette possible au cas où nous rencontrerions des entités indésirables revenant de l'abîme. Désormais, le relent émis par ces choses était très net. Il était sans doute stupide et peut-être suicidaire de nous aventurer dans ce tunnel dans de telles conditions. Mais chez certains, l'appel de l'inconnu est plus impérieux qu'on ne le pense. En fait, c'était cet appel qui nous avait attirés au cœur de cet angoissant désert polaire. Nous avons croisé plusieurs pingouins en cours de route et avons spéculé sur la distance qu'il nous faudrait encore franchir. Les sculptures nous avaient laissé entendre qu'il faudrait descendre une pente escarpée sur plus d'un kilomètre, mais nos errances nous avaient appris à ne pas trop nous y fier sur les questions d'échelle. Au bout de 300 mètres, cette odeur innommable s'est faite de plus en plus présente et nous avons soigneusement noté les emplacements des tunnels latéraux. Il n'y avait pas de vapeur visible comme celle que nous avions observée à l'embouchure, mais ce devait être en raison de l'absence d'air plus froid pour la condenser. La température montait rapidement et nous ne nous sommes même pas étonnés de tomber sur un tas d'objets d'une terrifiante familiarité. Il s'agissait de fourrures, et de toiles de tente provenant du camp de Lake, et nous ne nous sommes pas arrêtés pour examiner les formes étranges sous lesquelles ces tissus avaient été assemblés. Un peu plus loin, nous avons remarqué une augmentation en nombre comme en taille des galeries parallèles, et en avons conclu que nous devions avoir atteint le labyrinthe de tunnels qui s'étendait sous les montagnes. À ce relent sans nom, se mêlait désormais une autre odeur un peu moins désagréable, mais dont nous aurions été bien en peine de définir la nature, bien qu'elle nous fasse penser à des organismes en décomposition ou peut-être à des champignons souterrains inconnus. Puis, soudain, le tunnel s'est considérablement élargi, d'une façon à laquelle les bas-reliefs ne nous avaient pas préparés. D'un seul coup, nous nous sommes retrouvés dans une vaste caverne elliptique, apparemment naturel, avec un sol égal, le tout mesurant 25 mètres de long et 12 de large, avec de nombreux passages latéraux s'enfonçant dans des ténèbres cryptiques. Malgré son apparence naturelle, un examen à l'aide de nos deux lampes suggérait que cette caverne avait été formée par la destruction artificielle de plusieurs murs séparant des galeries plus petites. Les parois étaient rugueuses et le haut plafond voûté hérissé de stalactites, mais le sol rocheux avait été lissé et était dégagé de tout débris, détritus ou même de poussière d'une manière visiblement anormale. À part celle par laquelle nous étions arrivés, c'était également vrai pour toutes les galeries qui s'y ouvraient, ce qui nous intriguait considérablement. L'étrange et répugnante odeur qui s'était rajoutée au relent des créatures était particulièrement forte, au point d'en détruire toute trace. Cet endroit, avec son sol poli et presque luisant, nous paraissait encore plus horrible et intrigant que toutes les monstruosités que nous avions vues jusque-là. La régularité de ce passage, tout comme le plus grand nombre d'excréments de pingouins à cet endroit, nous indiquait clairement le chemin à suivre au milieu de cette pléthore d'autres ouvertures de taille équivalente. Néanmoins, nous avons recommencé à semer des bouts de papier au cas où le trajet deviendrait plus complexe, puisqu'il aurait été difficile de compter sur des marques tracées dans la poussière. En reprenant notre chemin, nos torches ont éclairé les murs et nous nous sommes figés de stupéfaction en voyant les changements radicaux dans les sculptures de cette partie du passage. Bien sûr, nous avions constaté la nette décadence qu'avait connue l'art des anciens à l'époque où le tunnel avait été creusé et remarqué la qualité inférieure des arabesques ornant les galeries que nous venions de parcourir. Mais maintenant, dans cette section au-delà de la caverne, il y avait une différence telle qu'elle défiait toute explication. Une différence non seulement de qualité, mais de nature même, impliquant une dégradation si profonde et si catastrophique en termes de technique que rien de ce que nous avions pu observer du déclin de cette race ne nous aurait permis de le prévoir. Ce nouveau type de sculpture dégénérée était grossier, brutal et dépourvu de tout raffinement dans les détails. Les bas-reliefs étaient exagérément enfoncés dans des bandes qui avaient la même ligne générale que les quelques cartouches des sections précédentes. Mais les motifs n'atteignaient pas la surface de la roche. Danforth était de l'avis qu'il s'agissait d'une seconde gravure, une sorte de palimpseste rajoutée après l'oblitération d'une œuvre plus ancienne. Il se composait de motifs décoratifs conventionnels, des spirales et des lignes brisées grossières qui suivaient à peu près la tradition mathématique quinaire des anciens, mais faisaient davantage penser à une parodie qu'à une tentative de perpétuer cette tradition. Nous ne pouvions nous empêcher de penser qu'un élément subtil et pourtant profondément étranger avait été ajouté à la sensibilité esthétique qui guidait la technique, un élément étranger qui, selon Danforth, était responsable de cette substitution laborieuse. C'était à la fois semblable et différent de l'art des anciens tel que nous avions fini par le comprendre, et je pensais à des créations hybrides comme les sculptures de Palmyre maladroitement confectionnées à la façon des Romains. La présence d'une pile usée sur le sol devant l'un des motifs les plus caractéristiques suggérait que les autres l'avaient également remarqué. Comme nous ne pouvions nous permettre de passer davantage de temps à étudier les sculptures, nous sommes repartis après un rapide coup d'œil. Cependant, nous dirigions fréquemment le faisceau de nos lampes vers les murs pour voir s'ils témoignaient d'autres modifications décoratives. Nous n'avons rien observé de tel, bien que par endroits, les gravures se fassent rares en raison du grand nombre d'ouvertures de galeries secondaires au sol lisse. Nous rencontrions et entendions de moins en moins de pingouins, mais il nous semblait vaguement percevoir un cœur infiniment lointain de ces oiseaux, quelque part au plus profond des entrailles de la terre. Cette puanteur nouvelle et inexplicable devenait d'une abominable intensité et nous ne pouvions plus discerner le moindre soupçon de l'odeur que nous avions sentie au début. Devant nous, des bouffées de vapeur bien visibles témoignaient de contrastes de température croissants et de la proximité relative des sombres falaises du Grand Gouffre. Puis, de façon totalement inattendue, des obstacles sont apparus juste devant nous sur le sol poli. Des obstacles qui n'étaient certainement pas des pingouins. Et après nous être assurés qu'ils ne bougeaient pas, nous avons allumé notre seconde torche.